Alors, moi, je suis Michel Dumas-Paradis.
Mon nom, c'est Jean-Paul.
Oui, ben, je m'appelle François. Je suis dans la mi-trentaine.
Oui, mon nom, c'est Brian Pierce. Je suis au...
Alors, mon nom, c'est Alexis Michel. Je suis le cadet.
Étienne Ferron-Forget, coordonnateur Valoriste Québec.
Mon nom, c'est Linda Toussaint.
Donc, je suis Ruba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire.
Sabrina Charon, chef d'équipe programme opérationnel chez Recyc Québec.
Mon nom, c'est Marika Vasquez-Tagliero.
Bonjour, je me présente. Mon nom est François Simard.
Je m'appelle Lise Lachance. Je vis à Saint-Roch depuis 33 ans.
Je m'appelle Véronique Demers et je suis journaliste pigiste à Québec. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers des valoristes.
Si la consigne n'existait pas, il n'y aurait pas de valoristes. La plupart sont loin d'avoir fait des études supérieures et gagnent un revenu modeste, même précaire. Certains d'entre eux n'ont pas de domicile fixe, mais sont passés maîtres dans l'art de la consigne. Dans cet épisode, vous découvrirez les modifications à venir à propos de la loi sur la consigne et le soutien politique apporté aux valoristes. Je vous livre également le dernier témoignage de valoriste que j'ai rencontré dans le cadre de cette série de balados, celui de François Simard. À quel point le Québec est-il à jour dans son système de consignes? Selon la Coop des valoristes de Montréal, le Manitoba et le Québec accusent un retard en matière de gestion de la consigne. La chef d'équipe au programme opérationnel à Recyc Québec, Sabrina Charon, a voulu apporter quelques nuances à cette affirmation.
Donc, les systèmes de consigne existent au Canada depuis déjà très longtemps. Par contre, même si on se ramène en 84, quand le Québec a décidé de créer son système de consigne, toutes les provinces ont un peu emboîté le pas, toutefois chacun à leur façon. Donc, ça peut différer tant dans le système de récupération, la manière de récupérer les contenants, le système de gestion, la manière dont est géré les entités, la manière dont ils sont gérés les systèmes de consigne gouvernementales, collecte sélective, ou même les types de contenants qui sont consignés. On peut donner l'exemple qu'en Ontario, encore aujourd'hui, la boisson gazeuse n'est pas consignée. Donc, tout le monde a vraiment son propre système, sa propre gestion et ses propres taux de récupération aussi. Donc, c'est vraiment géré province par province et il n'y a pas nécessairement d'uniformité là, entre les provinces. Ils ont vraiment chacun leur programme différent et les produits varient aussi qui sont consignés d'une province à l'autre.
Créée en 1990, Recyc Québec est l'agence gouvernementale responsable d'inciter le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Quand on se compare, on se console. En France, il n'y a pas de consigne. La gestion des déchets est réalisée au moyen de bacs de différentes couleurs par les collectivités territoriales, soit les communes et les intercommunalités. Selon le quotidien français La Croix, les élus locaux ont rejeté en bloc le projet de consigne à l'automne 2019, plaidant avoir déjà beaucoup investi dans le système de gestion des déchets. Le coordonnateur et intervenant psychosocial de la Coop des valoristes de Montréal, Alexis Michel Schmidt-Cadet, commente le contexte actuel en France.
En France, il n'y a aucune consigne. Fait que là, c'est le niveau zéro de la consigne, contrairement à d'autres pays européens comme l'Allemagne qui consigne énormément. Mais la France a absolument aucune politique de consigne puis n'est pas prête d'en développer actuellement dans l'état des choses. Disons que je ne suis pas étonné parce qu'on a vraiment beaucoup de progrès à faire au niveau du traitement des déchets, puis même de l'accompagnement des personnes en France. Là, si on imaginait une coopérative de solidarité comme les valoristes en France, il y a beaucoup de chemin à faire là-dedans. Je ne suis pas étonné. C'est sûr que j'ai découvert beaucoup de belles choses depuis que je suis arrivé au Québec. Même si au Québec, la coopérative Les Valoristes est un des deux seuls organismes qui existent pour tout le Québec, là où d'autres provinces ont plusieurs centaines de centres comme le nôtre.
Les programmes opérationnels regroupent le système de consigne et de récupération des pneus hors d'usage. Au départ, la loi sur la consigne, mise en place en 1984, concernait les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.
En 84, c'est assez simple à gérer. La bière est en bouteille brune, la boisson gazeuse est en verre clair. Donc, il n'y avait pas nécessairement cette nécessité-là de gestion de contenant. Par contre, est arrivé l'embouteillage en canette dans ces années-là, et dont les canettes aussi qui étaient consommées hors foyer. Et c'est un peu ce qui a amené la création, finalement, de la consigne, c'était de prévenir les déchets qui jonchaient les rues, les rebords d'autoroute, tout ça. Et c'est là, finalement, qu'est arrivée cette nouvelle loi-là en 1984 pour la gestion des contenants consignés.
Pendant près de 40 ans, à peine une demi-douzaine de contenants à remplissage multiple se retrouvaient sur le marché. Mais depuis 10 ans, de nouveaux produits ont vu le jour, ce qui a complexifié le système de consigne et a incité le gouvernement à revoir la loi sur la consigne.
Je pourrais donner comme exemple des contenants ou des produits comme le kombucha, qui n'existait juste pas là, dans les années 80. Fait que c'est un peu un amalgame de choses qui a amené le gouvernement finalement à dire « bon, on est rendu là ». On est rendu à cette étape-là de moderniser puis d'amener ce système-là ailleurs.
Avec l'arrivée de nombreux contenants sur le marché, on peut comprendre l'importance de moderniser le système de consigne. Mais qu'en est-il de son efficacité à ce jour?
Question de mettre en perspective, je pense que c'est important de savoir qu'il se vend 2,3 milliards de contenants consignés au Québec. Ça, c'est en 2019. Et on en récupère 1,6 milliard, toujours, c'est des gros chiffres, par les systèmes de consigne.
La modernisation de la loi sur la consigne entrera progressivement en vigueur à partir de l'automne 2022, après les élections générales. Aux contenants de boissons gazeuses et de bière s'ajouteront les contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 litres et le carton de lait. Dans cette consigne élargie, la tarification sera de 10 cents sur l'ensemble des contenants, mais de 25 cents sur les bouteilles de vin et de spiritueux. Ainsi, les contenants de verre, de carton, de métal et de plastique seront consignés. Quant aux contenants multicouches, comme les pintes de lait et les emballages Tetra Pak, la consigne sera mise en application en 2024. Actuellement, 1,6 milliard de contenants sont récupérés chaque année. Avec la consigne modernisée, ce nombre devrait passer à 4 milliards, dont 1 milliard seulement en bouteilles d'eau, ce qui est considérable. Tous les acteurs de l'industrie sont mobilisés pour assurer le succès de cette modernisation, notamment l'Association des brasseurs du Québec. Patrice Léger-Bourgoin, son directeur général, commente.
Effectivement, j'ai passé l'essentiel de l'été là, à travailler avec les autres parties prenantes et les autorités gouvernementales là, sur le projet de modernisation des activités de consigne publique au Québec.
Monsieur Léger-Bourgoin craint que la modernisation de la loi sur la consigne serve à régler des problèmes qui ne proviennent pas de l'industrie brassicole. Il cite les contenants de verre et autres types de produits qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement, à défaut d'avoir des repreneurs sur les marchés locaux et internationaux. Le coordonnateur et intervenant psychosocial de la coop des Valoristes de Montréal, Alexis Michel Schmidt-Cadet, renchérit sur les propos de Monsieur Léger-Bourgoin.
Il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Les bouteilles de vin, c'est une aberration absolue que les bouteilles de vin ne soient pas consignées en 2020 au Québec. On a encore pas mal de contenants qui ne sont pas consignés et qui mériteraient d'être consignés. Puis sur les valeurs, c'est sûr que pour les canettes, c'est 5 et 21 sous. Fait qu'à date, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est sûr qu'uniformisation permettrait de ne pas avoir besoin de toujours être obligé de regarder si la grande canette de Coca, qui est un peu plus grande et qui correspond plus à la taille des canettes à 20 sous et bien une 5 sous. Là, il y a comme plein de mélanges qui peuvent se faire très, très facilement. Là, on s'est construit un œil et une expertise que peu de personnes ont ici à la coopérative. Mais beaucoup de gens se trompent encore puis pensent que leurs contenants de 5 sous valent 20 sous. Puis ils ne le font pas exprès. C'est juste que ce n'est pas intuitif. On demanderait aussi à ce que ce soit mieux écrit, que ce soit vraiment visible avec des lettres noires au lieu d'avoir quelque chose où il faut le tordre dans tous les sens pour arriver à le lire. C'est pas facilité, hein. On a comme l'impression que on n'aide pas les gens actuellement à récupérer les contenants. Il y a une consigne et historiquement le Québec fait partie des provinces qui consignent, mais je dirais qu'on nous met bien des bâtons dans les roues pour que ce soit facile pour les gens qui viennent rapporter leurs contenants.
Sabrina Charron de Recyc Québec précise toutefois l'exception qui ne sera pas incluse dans la modernisation de la loi sur la consigne, c'est-à-dire les contenants à remplissage multiple.
Les contenants à remplissage multiple, c'est des ententes privées qui sont gérées, qui appartiennent à l'industrie, puis qui sont gérées par l'industrie. Ça, c'est la bouteille brune réutilisable jusqu'à 15 fois qu'on parlait d'entrée de jeu. Ça, ça va demeurer tel quel. Les taux de récupération sont excellents. Mais sinon, les programmes de récupération se comparent assez bien, oui.
Pour assurer la meilleure transition possible vers la modernisation de la loi sur la consigne, deux programmes sont en cours. L'un d'eux sert à faciliter le débouché de matières problématiques à récupérer, comme le contenant multicouche, et l'autre, à moderniser le parc de gobeuses, c'est-à-dire les machines récupératrices de canettes et de bouteilles de plastique. Une autre étape importante est le dépôt du plan financier opérationnel par l'industrie au début de 2021. Le système de consigne élargie sera géré par les producteurs. Ils devront démontrer à Recycle Québec quel est le meilleur plan pour récupérer les contenants consignés. Donc, d'ici les deux prochaines années, l'industrie va être amenée à s'organiser. On parle de OGR. Parlez-moi-en, s'il vous plaît, Mme Charron.
Oui, dans le concept qu'on appelle des REP, les responsabilités élargies des producteurs, c'est à l'industrie qui met en marché les produits de s'organiser pour assurer la récupération, le recyclage de ce qui est mis en marché, finalement. Et ça, ça se fait via la création d'un OGR, qui est un organisme de gestion reconnu. Donc, dans le cadre du projet de modernisation de consigne, l'industrie, dans le plan opérationnel et financier qu'ils devront déposer d'ici le début de l'année 2021, devront aussi proposer un organisme de gestion reconnu qui prendra en charge la gestion de la consigne modernisée.
Les OGR, les organismes de gestion reconnus, représentent un modèle éprouvé, puisqu'ils existent et fonctionnent bien dans d'autres secteurs d'activité, comme les huiles, la peinture, les piles et le matériel électronique.
Ça fait déjà plus de 8 ans que le Québec gère des programmes là, de responsabilité élargie des producteurs. On n'a qu'à penser aux huiles, à la peinture, aux piles, au matériel électronique. Donc, c'est une expertise que le Québec a. C'est une expertise qui est reconnue et avérée. Mais aussi, c'est une tendance mondiale dans les systèmes de gestion de matières résiduelles d'aller vers des systèmes de responsabilité élargie des producteurs. D'un sens, la logique est un peu là quand tu remets la responsabilité de celui qui met en marché les produits d'assurer sa récupération. L'objectif aussi, il y a 8 ans, tout ça, c'était beaucoup, on travaillait beaucoup sur l'éco-conception. Parce que quand moi, je suis responsable de ce que je mets en marché, j'ai peut-être plus le goût d'aller vers du contenu recyclé ou de bien choisir mes matières, de choisir des matières qui vont être plus facilement recyclables. C'est sûr que là, ça touche moins la consigne où on parle de plastique, verre, aluminium, qui sont des matières qui se recyclent déjà très, très bien.
Ensuite viendra la mise en place de projets pilotes sur la consigne et la mise en vigueur de la modernisation de la loi sur la consigne à l'automne 2022.
Un projet de cette envergure-là, ça se fait pas tout seul, donc il faut vraiment que tout le monde marche dans le même sens. Les brasseurs, les embouteilleurs, tous les parties prenantes sont impliquées dans ce projet-là depuis le début.
Le Québec veut être le plus écologique possible en détournant au maximum, et avec raison, les contenants réutilisables des sites d'enfouissement. Mais quels sont les objectifs du gouvernement avec cette consigne élargie? Sabrina Charron de Recycle Québec termine l'entrevue avec quelques chiffres ambitieux.
Les taux de récupération ont été définis dans le projet de modernisation de consigne. On doit le dire, sont assez ambitieux. On parle d'un taux de récupération de tous les contenants de 75 % en 2025 et 90 % en 2030.
Recycle Québec apporte un soutien technique et financier à la Coop de Montréal et à l'OSBL de Québec. À Montréal, la Coop bénéficie également de l'appui de l'arrondissement Ville-Marie et de Ruba Gazal, député de Québec solidaire pour la circonscription de Mercier. À Québec, l'OSBL a pu compter sur le support de Catherine Dorion, députée de Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau.
Les valoristes, eux, leur mission, Et c'est là qu'on a travaillé très, très fort, que ce soit Catherine Dorion avec les valoristes à Québec ou que ce soit moi avec les valoristes à Montréal. On a travaillé fort pour qu'ils puissent, en faisant des représentations auprès du gouvernement, pour qu'ils puissent avoir les moyens d'ouvrir rapidement puis d'être déconfinés pour, un, recueillir tous les contenants que ces gens-là accumulent, les personnes vulnérables, depuis très longtemps parce que les détaillants ont arrêté. Et deux, aussi, c'est aussi une façon, et ça peut faire partie de la mission de la coopérative des valoristes, de donner des consignes sur sanitaire, parce que le gouvernement ne peut pas rejoindre ces personnes-là facilement. Et voilà que les valoristes, eux, travaillent avec eux, ils peuvent leur inculquer, si on veut, toutes ces mesures sanitaires, puis s'assurer s'il y a un problème ou quoi, alors que la population, le gouvernement, pardon, ne peut pas vraiment les rejoindre. Donc, il y a une mission en tant que COVID sociale, environnementale et économique. Nous, ça va être ça. Ça va être de dire, bien, de les aider à trouver un endroit avec le gouvernement. Okay. Et aussi, peut-être, de voir comment est-ce qu'on peut faire. Nous, on est un parti dans le pouce, on n'est pas le gouvernement, donc on ne peut pas prendre de décision, mais ce qu'on peut faire, c'est faire des pressions par toutes sortes de moyens. Et on est en train de regarder aussi qu'est-ce qui peut être fait pour sensibiliser aussi la population.
Ben, à l'initiative de plusieurs partenaires, dont la députée Ruba Ghazal, qui est une de nos principaux soutiens, on doit le dire, on bénéficie de soutiens politiques très précieux. On a pu aller sur le plateau faire une récupération de canettes où on offrait à ce moment-là aux personnes soit d'être remboursées, soit de faire un don à la coopérative. Et ça a été vraiment intéressant parce qu'on a reçu vraiment énormément de dons, près de 1 000 $ de contenants consignés qui ont été donnés à la coopérative. C'était un beau moment pour partager avec les gens, pour leur expliquer ce qu'on faisait. Il y a beaucoup de gens qui étaient soulagés de se défaire de leurs contenants parce qu'ils en avaient beaucoup, puis ils ne savent pas où les remettre. Ce n'est pas tout le monde qui reprend tout. L'industrie est parfois pas aidante dans quel contenant est repris et quel contenant n'est pas repris. Ça a eu vraiment un effet extrêmement positif sur les gens qui sont venus nous voir.
Une des premières actions posées par la députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, a été de demander au premier ministre Legault la tenue d'une commission parlementaire. Même s'il est peu fréquent que cette demande d'un des partis de l'opposition soit acceptée, ça a été le cas. Une commission parlementaire sur les enjeux du recyclage et de la valorisation locale du verre s'est donc déroulée en août 2019.
Le débat sur la consigne est souvent fait dans les journaux, dans des articles, par des lettres ouvertes, dans des reportages, dans les médias. Mais c'est de dire, de faire le débat, puis de vider la question, si on veut, c'est-à-dire de parler de tous ces aspects-là, tous les aspects de la crise du verre. Moi, c'était ça le sujet plus principalement que la consigne en tant que telle. D'amener toutes sortes d'intervenants, des experts, des citoyens, des groupes écologistes, d'autres groupes, pour venir dire c'est quoi le problème et quelles sont les propositions de solutions qu'ils ont. Puis on a demandé que Marika Vasquez, dont la cofondatrice de la coopérative de solidarité Les Valoristes à Montréal, soit présente. Et Marika, je veux dire, on la connaît depuis très, très longtemps à Québec solidaire. On a développé beaucoup de relations avec elle parce que ce qu'elle fait, je veux dire, tout le où est-ce qu'elle est installée, là, ses installations pour recueillir la consigne des valoristes, se passe dans le comté de Manon, de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en dessous donc du pont Jacques-Cartier. Et donc, comme ça fait pas, c'est un organisme du comté de Manon, donc c'est sûr qu'il y a eu des relations. Il y a une relation de longue date qui a été établie avec les valoristes. Et vraiment, on l'a donc invitée pour parler de ça. Puis elle, ce qu'elle avait dit à l'époque, c'est qu'il faut donner une place pour les valoristes. Ils font un travail essentiel, fondamental. Et moi, je ne manque pas une seule occasion pour parler des valoristes aux ministres, que ce soit en face des caméras ou que ce soit off the record, comme on dit.
À la fin des interventions de cette commission parlementaire, les députés, tous partis confondus, ont élaboré un rapport d'initiative.
Et la problématique qu'on étudiait à ce moment-là, c'est à quel point c'est scandaleux que le verre, une grande quantité du verre, que ce soit des contenants de toutes sortes de produits, le kombucha, tout ça qui n'a pas de consigne, ou le verre des bouteilles de vin à la SAQ ou des spiritueux, ne soient pas consignés. Et se retrouvent dans les sites d'enfouissement, sont jetés, utilisés comme matériel de recouvrement. Et ça veut dire, moi j'appelle ça du blanchiment de verre, de blanchiment environnemental. Et même le gouvernement de la CAQ l'a reconnu et le reconnaît. Et une des solutions dans le rapport qu'on mentionnait, c'était d'interdire cette pratique. Et l'autre, c'est de moderniser la consigne, puis de mettre une consigne sur beaucoup plus de contenants, d'augmenter les montants, etc.
En plus de la commission parlementaire, les appuis politiques et ceux des grands brasseurs,
Si on ramène tout ça à l'échelle humaine, j'aimerais vous présenter François Simard, 59 ans, le plus politisé des valoristes que j'ai rencontrés. Il habite dans le quartier Saint-Roch, le même que le point de dépôt saisonnier des Valoristes Québec. Bien qu'il soit très sensibilisé à l'environnement, il récupère des contenants consignés depuis moins d'un an.
Je le fais vraiment au départ pour la cause environnementale là, qui m'avait vraiment là, bouleversé à Noël en 2019. Là.
Ce grand récupérateur dans l'âme n'a pas complété son secondaire en raison d'un accident, me confie-t-il. Il avoue ne pas être très studieux. Mais ce problème physique l'a amené à revendiquer la contrainte sévère à l'emploi. Il reçoit ainsi des prestations d'aide sociale adaptées à sa condition. Il a vécu sa jeunesse à l'époque du rock'n'roll, où les tablettes et les cellulaires intelligents n'existaient pas encore.
Je suis content d'avoir vécu cette époque-là. Là. Mais c'était une époque où l'écologie, personne n'en parlait. Moi, je me souviens d'une chanson dans les années 70, « Pollution de l'air, pollution de l'eau », une chanson qui parlait pour la première fois de ça, puis que c'était un peu... Les gens prenaient ça à la légère, c'était une joke.
Un peu comme une légende urbaine, peut-être. Mais
les gens riaient quand ils entendaient cette chanson-là, tu sais, prenaient pas conscience que dans peut-être 30-40 ans plus tard, ça serait un réel problème, là. Moi, jeune, je veux dire, j'en ai jeté des cochonneries. Ce que je fais aujourd'hui, ça compensera jamais pour toutes les trucs que j'ai jetés dans ma vie qui auraient pu être recyclables. Je faisais le ménage les fins de semaine, donc le matin, je trouvais souvent dans les corridors, sur le bord des portes, des bouteilles, des canettes. Donc, j'étais payé pour les enlever de là, puis aller les porter au container. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, je devrais plutôt aller les porter au IGA, plutôt que les mettre dans le container, comme la plupart des concierges faisaient. Et puis c'est là que ça a commencé tranquillement, parce que les gens croient à tort que dans les chutes à déchets, les gens font du recyclage en bas, alors que ça se fait pas du tout. Puis j'étais le seul à le faire, mais ça dérangeait un peu mes patrons. Là. C'était difficile pour eux autres de me voir le fouiller dans les vidanges.
Je vois à quel point c'était important la récupération de canettes, de contenants recyclés dans vos finances. Est-ce un revenu d'appoint important pour vous?
Non, pas du tout. Je le faisais bien plus pour l'écologie. J'avais signé le pacte au moment où ça sortit, le pacte de Dominique Champagne. Et puis, n'étant pas un gros consommateur, je suis un homme célibataire. Je n'ai pas de dépenses tant que ça. Je fais une petite vie bien simple. J'ai pas de restaurant à payer, j'ai pas de blonde à sortir, j'ai pas de cinéma, j'ai rien. Fait que je suis pas. Je vis bien, là. Je le faisais pas pour ça. Mais je m'apercevais que les résidents où j'habitais étaient pas très propres. Ça m'achalait. Puis j'ai pris conscience à Noël d'un énorme gaspillage quand j'ai vu ce qu'il y avait dans les poubelles le lendemain de Noël. À partir du 25, là, c'est là que j'ai été conscientisé là, qu'il y avait un gaspillage énorme. Et c'est là que j'ai dit, ben, si moi, j'ai réussi à réduire mes déchets de 90%, 95%, je dois être capable de donner un coup de main à ceux-là qui ne peuvent pas le faire.
François Simard a vite constaté que les matières, qu'elles soient organiques ou recyclables, n'étaient pas toujours disposées dans les bons conteneurs.
C'est choquant. Il faut faire les poubelles. Si vous soulevez chaque bac bleu dans un quartier où le camion va passer, là, ça se peut qu'à la fin de la journée, vous soyez choqués. Là.
Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour faciliter le travail des valoristes?
Bien, la première des choses, ce serait que les gens, quand ils jettent leur contenant, leur canette, de le mettre dans un sac à part, seul, sans déchets organiques, et le mettre à côté du bac bleu. Et les gens qui ramassent, c'est très facile pour eux. Imaginez qu'un gars passe à 3 heures du matin, en pleine nuit, l'été, les fenêtres sont ouvertes, puis qu'il commence à fouiller dans le bac bleu, puis le bruit des cannes, le bruit des bouteilles, puis tout ça, qui vous réveille parce que le bac est en dessous de votre chambre à coucher. Tandis que là, s'il est dans un petit sac à côté du bac, on passe, on le ramasse, on ne fait pas de bruit, puis ça avance vite, puis ça débarrasse. Fait que si les gens pouvaient arrêter d'écraser les canettes, de mettre le top de cigarettes dedans, de s'organiser pour que ça soit propre.
François Simard a commencé à investir de plus en plus de temps à valoriser et à réparer des objets pouvant avoir une deuxième vie, en plus de continuer sa collecte de contenants consignés.
Donc, c'est plus ça. Les canettes, c'est comme un deuxième... C'est un petit revenu. C'est plus parce que je veux pas que l'aluminium s'en aille au dépotoir ou à l'incinérateur. Là. Il me semble que c'est la moindre des choses. de les recycler. Fait qu'il y a certaines personnes qui sont plus conscientes de ça, donc ils vont les mettre dans un sac à côté du container. D'autres savent très bien qu'ils vont les mettre au travers la nourriture pour que ça soit super dégueulasse, pour pas qu'on puisse la récupérer. Fait qu'il y a deux philosophies là-dessus. Là. Il y a des gens qui trouvent qu'on fait, qui nous félicitent, puis d'autres qui nous regardent comme si on était... Tu devines ce que je veux dire?
Le point de dépôt saisonnier des Valoristes Québec s'est avéré une ressource salutaire pour François Simard, puisque les contenants consignés commençaient à s'accumuler sérieusement dans son logement.
Bien, c'est sûr que c'était pratique, parce que quand j'ai lu qu'à partir du 8 juin, ils commençaient à reprendre les contenants, alors 3 semaines avant, j'ai commencé à les ramasser, en pensant que toutes les épiceries les prendraient comme avant, puis tout ça, je pensais pas que, tu sais, j'avais lu, mais... Fait que j'en avais une grosse quantité énorme, j'en avais, là. Des canettes, puis plein d'autres trucs que j'avais trouvés. Donc, mon appartement était un petit peu saturé, là, les 3 semaines. Et quand je suis arrivé pour les vendre au IGA, ils prenaient pas. Alors là, j'étais mal pris, j'ai dit, ce que je vais faire avec ça? Je veux pas les jeter, fait qu'essayer de trouver un endroit pour les prendre... puis pas capable d'arrêter de les ramasser. Fait que ça continuait de plus en plus. Et puis, à un moment donné, en appelant au métro, j'ai demandé, prenez-vous les canettes? Et ils m'ont dit, oui, on les prend de l'autre côté de la rue. Mais ils n'ont pas parlé des Valoristes. Ils ont juste dit, ça se passe l'autre côté de la rue, sous les viaducs de l'Île-aux-Fleurs. Je me mets à la place de quelqu'un, là, pendant la COVID, là, qui ne pouvait pas, ne serait-ce que vendre 2-3 $ de bouteille juste pour payer son souper, là. Puis là, qui n'avait pas de revenus, puis que tout, parce qu'il y a quand même une économie à côté de tout ça, là, les vidanges. Pour avoir commencé à faire ça l'an dernier, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde, que je n'étais pas tout seul, que j'avais de la compétition, puis qu'il y a beaucoup de gens qui récupèrent, puis qui rafistolent, réparent. Donc, il y a quand même des petites fourmis qui travaillent là, à ça et à essayer d'améliorer les choses. Certains le font peut-être pour leur poche. C'est sûr que c'est payant malgré tout. Là, on peut avoir... Moi, la première journée que j'étais allé au Valoris, j'avais près de 300 $ de canne. J'ai fait 7 voyages de vélo à 10 sacs attachés sur mon vélo à chaque fois. Là, derrière, là, j'avais 10 sacs bleus remplis de canettes. Mais c'est sûr que des canettes à 20 sous, ça va vite. Là.
Se promener dans les rues de la ville ou sur les sites de grands événements pour récupérer des contenants consignés donne lieu parfois à des anecdotes savoureuses.
Pas vraiment une compétition, mais il y a beaucoup de monde qui en ramasse. Donc, si tu veux en ramasser, ben tu as intérêt à passer le premier. Ah non, ça m'est jamais arrivé, même que des fois, il y a des gens... Tu vois, un gars, à un moment donné, ça c'était à Saint-Jean-Baptiste, il arrive et il dit, t'en veux-tu des canettes? Lui, il m'a donné tout ce qu'il avait ramassé dans la nuit parce qu'il avait trouvé un portefeuille plein d'argent. Fait qu'il dit, moi, j'ai fait ma nuit, je suis correct, et je te donne mes canettes.
Notre valoriste le plus conscientisé en environnement, François Simard, tire la sonnette d'alarme auprès des jeunes générations.
On va finir par se faire enterrer par toutes ces cochonneries-là si jamais on ne prend pas ça en compte. À un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent sérieusement. Là. Moi, j'en ai rien à foutre parce que je t'avais de partir. J'ai 60 ans, je ne vivrai pas jusqu'à 100 ans. Puis, je veux dire, c'est dommage pour les générations qui vont suivre. Puis c'est eux qui doivent être sensibilisés à ça. Moi, je suis déçu quand j'ai vu autant de jeunes derrière Greta qui manifestaient puis qui criaient que les gouvernements fassent quelque chose. Commencez par vous, les jeunes, d'arrêter de prendre l'avion juste pour aller faire une photo pour mettre sur Instagram en arrière d'un palmier. Y a-tu quelqu'un sur son compte Instagram ou son Facebook qui n'a pas une photo avec un lagon bleu puis un beau paysage en arrière? Alors qu'on pourrait le faire en plein hiver avec un beau sapin, ça serait aussi cute. Fait que, moi, je sais pas, mais j'ai de la misère avec ça. Je demanderais aux jeunes, s'il vous plaît, réveillez-vous, soyez conscients, parce que c'est votre monde, puis vous êtes en train de faire peut-être pire que ce qu'on nous, on vous a laissé.
Heureusement, le ciel de l'avenir n'est pas si obscur qu'on peut le penser. D'ici 2022, le gouvernement entend moderniser la loi sur la consigne. Ça donne lieu à des projets pilotes qui fonctionnent déjà très bien. La suite dans le prochain épisode.
Réalisation Véronique Demers. Coordination à la production, montage, mixage et bruitage, Marlène Bordelot. Coordination à la programmation, Pascal Evans. Les Valoristes est une production de CKIA FM en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Thank you.